Frère Thomas, vous êtes actuellement le père abbé des frères trappistes qui sont juste à côté de Rome, dans l'abbaye de Fratocchie. Et au cours de votre parcours, vous avez déjà rencontré le monastère de Tibérine en Algérie.
Ça a certainement été un moment crucial dans la mesure où les frères ont été enlevés au mois de mars 1996. À l'époque, je terminais mon noviciat et j'étais en phase préparatoire, dirons-nous, pour prononcer mes premiers vœux dans mon monastère d'origine en France, qui est le monastère de la Trappe. On a évidemment vécu l'enlèvement d'une manière assez intense, avec chaque jour, au cours des différentes liturgies, une mémoire des frères et une matérialisation dans l'église de leur présence.
Par des photos ?
C'était par des cierges et une chaîne. Et tous les soirs, à la fin des complis, on avait un temps de prière silencieuse qui était introduite par une prière dite par le père abbé pour les frères. Et je me souviens encore très bien que le jour où on a appris leur assassinat, nous avions une session sur Saint-Bernard. Le conférencier était prêt à donner sa conférence le soir et notre père abbé est rentré dans la salle. Il avait l'air complètement décomposé. Et il nous a annoncé à ce moment-là qu'avait été officialisé l'assassinat des frères. Je ne connaissais aucun des frères, mais très vite, ce don suprême a pour moi été un point d'interrogation, surtout comme je devais prononcer mes vœux peu de temps après. Il y a eu tout un cheminement qui s'est fait à travers eux, c'est-à-dire que j'ai pris conscience que dans la profession, on se donnait jusqu'à la mort. Alors ça ne voulait pas dire que je pouvais, moi, être appelé à donner ma vie comme eux l'ont donné, mais qu'il fallait être prêt dans l'engagement à aller jusque-là. Et peut-être que le véritable enracinement de mes vœux, je leur dois.
Pas d'une façon forcément visible, dans le sens où vous les avez rencontrés, mais dans une espèce de communion invisible
Dans une communion invisible, parce que je ne les avais jamais rencontrés et je n'avais jamais été à Tibérine. Tout juste en avais-je entendu parler par notre abbé qui nous donnait des nouvelles pendant les années 90, enfin, quand il y a eu la guerre civile en Algérie, mais ça n'allait pas plus loin. Et pour moi, c'était la quintessence du don. Et la question, c'était, mais est-ce que moi, je suis en mesure de me donner dans ma vie monastique comme ses frères se sont donnés, même si on n'était pas appelé à la même chose, il y avait une espèce de radicalité de l'engagement que peut-être je n'avais pas mesuré jusque-là, que eux m'ont fait mesurer, et à travers eux j'ai pu dire oui. Je ne dis pas que j'aurais dit non, mais je ne l'aurais peut-être pas dit de la même manière.
Et ce oui vous a amené et vous amène aujourd'hui à vous intéresser à un des frères de Tibérine, qui est le frère Luc, le frère qui a été médecin pendant cette période dans ce monastère. Pourquoi le frère Luc ?
En 98, j'ai séjourné pendant 3 mois en Algérie et au Maroc, où résidaient les 2 frères survivants et une tentative de reprise de la vie monastique en Algérie. Et je suis donc allé plusieurs fois à Tibérine, puisque à l'époque la communauté vivait à Alger pour des raisons de sécurité, puisque c'était encore la guerre. À l'époque, je ne m'intéressais pas particulièrement au frère Luc, j'étais porté par un certain enthousiasme. La première fois que je suis monté à Tibérine, c'était donc un jour de septembre 98. La première chose qu'on m'a demandé, à peine avais-je posé le pied en dehors de la voiture, c'est « Est-ce que tu es médecin ?» Ça dit aujourd'hui, avec quelques années de recul, l'importance de la présence de frère Luc au sein de cette communauté de Tibérine. Alors après, il se trouve que j'ai rencontré un des neveux du frère Luc, avec qui je suis devenu très proche. Il y a non seulement une amitié, même s'il pourrait être mon père, mais il y a aussi, au niveau spirituel, il y a de vraies affinités. Et c'est beaucoup à travers lui, finalement, que j'ai découvert la figure de son oncle. J'ai travaillé pendant un an et demi sur le parcours de la communauté, sur son cheminement, parce que ce qui était pour moi très interpellant comme moine, c'était d'arriver à comprendre comment une communauté qui est un agglomérat de gens extrêmement différents, avec des tempéraments, des histoires différentes, des manières d'être moine différentes, comment est-ce que ce groupe d'hommes, et on savait que la communauté de Tibérine avait la réputation d'être une communauté dans laquelle il n'était pas facile de vivre parce qu'il y avait des caractères bien trempés, comment est-ce que ces hommes étaient arrivés, par grâce, à une unité qui, pour moi, est un peu le sommet d'une vie communautaire.
Amour infini.
Et donc, j'ai travaillé beaucoup dans les archives de Tibérine. À travers tous ces documents, là, j'ai aussi commencé à rencontrer Frère Luc un peu de l'intérieur. Et je me suis assez vite rendu compte que cet homme, qui avait, quand il est mort, 82 ans, avec une vie incroyable, était arrivé à une unité intérieure qui, pour moi, était stimulante dans le sens que c'est probablement ce que je recherche dans mon être monastique. Et il s'est un peu imposé à moi, non pas comme un modèle, parce que je n'aime pas tellement le terme de modèle et d'imiter quelqu'un, mais j'ai comme un phare ou quelqu'un qui peut éclairer mon cheminement dans ces passages heureux et dans ces passages plus difficiles, parce que lui a traversé un nombre incalculable d'épreuves, il a une vie qui est digne d'un roman policier ou d'un roman d'aventure, mais toujours avec ce désir fortement ancré au cœur d'aller à Dieu. Quel que soit le contexte, les événements extérieurs, quelles que soient les difficultés de la vie communautaire, il y avait chez lui ce désir de la rencontre avec l'autre, avec un petit A, ce qu'il a vécu à travers son ministère de médecin, qui était plus qu'un médecin, c'était un marabout, c'était un guide spirituel. Et il a réussi à porter tout ça durant sa vie et à arriver, alors que n'importe qui aurait probablement explosé en vol. Lui, au contraire, on voit quelqu'un qui, au fur et à mesure des années, s'unifie, se simplifie de manière impressionnante.
Est-ce que votre parcours monastique a une couleur particulière grâce au frère Luc ?
Ce qui est sûr, c'est que l'exemple du frère Luc, un homme extrêmement brillant, qui a choisi une place extrêmement humble. Frère Luc était docteur en médecine, il a soutenu sa thèse à Lyon dans les années 30. C'était quelqu'un qui aimait bien la vie, et pourtant qui a eu très vite le désir de prendre ce que j'appelle l'option fondamentale de la pauvreté. Se dépouiller, et aussi se dépouiller de sa propre personne pour mieux se donner au Christ. Il se trouve qu'il l'a vécu dans un premier temps, quand il est entré dans la vie monastique au monastère d'Aiguebel dans la Drôme, il l'a vécu de manière très simple et sans exercer sa profession. Je sais, quand il est parti en Algérie en 1946, où là, il a donné une coloration au métier qu'il avait appris, et qu'à côté du monastère s'est développé un dispensaire. Il est devenu le personnage central de la communauté. C'était aussi quelqu'un qui était très soucieux de la rencontre de l'autre. C'était une rencontre, je dirais, très humaine, très terre-à-terre. Mais c'était quelqu'un qui avait un désir de prendre soin de l'autre absolument inimaginable. Pour donner un exemple, dans sa vie, frère Luc, pendant la Seconde Guerre mondiale, s'est porté prisonnier volontaire pour remplacer un médecin, père de famille, de la ville dont il était originaire. Et donc, il s'est retrouvé dans un oflag en Allemagne, où il a retrouvé aussi son beau-frère qui était prisonnier, c'était un oflag d'officier. Et il y avait, à côté du baraquement des prisonniers français, il y avait un baraquement d'officiers russes que personne ne voulait aller soigner parce qu'ils avaient le typhus. Et tout le génie de frère Luc, ça a été de faire comprendre à ses compagnons d'infortune que s'ils pouvaient, dans la mesure du possible, réduire un peu leur dose de médicaments, lui, comme ça, pourrait en mettre de côté, et qu'éventuellement, il pourrait songer à aller soigner les Russes dont personne ne s'occupait et qui étaient voués à une mort certaine. Au bout d'un certain temps, il a réussi à se faire sa petite réserve et il n'a pas eu peur d'attraper la maladie lui aussi et il est allé les soigner. De fait, il attrapera la maladie. Quand il était à Tibérine, lui-même avait des problèmes de santé. Il n'hésitait pas à donner tout ce qu'il avait pour venir en aide aux autres. C'était quelqu'un qui était suffisamment décentré de lui-même, désintéressé de lui-même, pour être en mesure de s'apercevoir de l'autre. Quelqu'un qui avait acquis une sagesse de vie, qui a fait dire à la fin à Christian de Chergé que finalement, il était un peu l'arbre de la sagesse au cœur de la communauté et que facilement, on se référait à lui pour demander un conseil quand il y a eu des décisions lourde à prendre. Et en même temps, cet homme qui a fait le choix d'une vie simple, pauvre, cachée, est peut-être celui qui, auprès de la population algérienne, a laissé le souvenir le plus fort. Parce que l'autre avait vraiment du sens dans sa vie. Et en ce sens-là, il a vraiment développé une spiritualité christique. Comment, à travers ces hommes et ces femmes, ces enfants qui me sont envoyés, qui ne sont pas de ma religion, mais peu m'importe, moi, est-ce que chacun m'apporte quelque chose de ce qu'est le Christ ? Je crois que ça a aussi été le moteur de son ministère de soignant au milieu de cette population algérienne.